Actu SF, les podcasts.
Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour le coup de cœur du festival. Comme chaque année, j'ai le plaisir d'animer cette rencontre parce que, évidemment, si on a choisi un auteur ou une autrice selon les années comme coup de cœur du festival, c'est qu'on estime évidemment que c'est un auteur de talent, que c'est un auteur à vous faire découvrir si vous ne le connaissez pas encore, c'est un auteur à promouvoir et c'est aussi un peu le but des Imaginales, c'est faire découvrir et promouvoir des écrivains, c'est aider à faire connaître leurs œuvres et c'est vous faire partager les bonheurs de lecture que j'ai pu avoir ces derniers mois ou ces dernières années avec ces écrivains. Ce sont des écrivains qui ne sont pas encore des stars de la littérature comme Alain Damasio ou des grands noms comme Pierre Bordage. C'est plus la peine, on les fait venir parce que c'est notre plaisir à nous, mais ils n'ont plus besoin de nous du tout pour leur promotion, même s'ils sont toujours ravis de parler de leur dernier livre. En revanche, pour le coup de cœur, c'est quelqu'un qui a suffisamment fait ses preuves pour qu'on prenne le risque de dire « nous, on parie sur lui ou sur elle ». Et c'est aussi un auteur dont les livres nous ont profondément touchés, intéressés, qui, à notre avis, apporte un ton, une façon de raconter des thématiques ou une façon de traiter les thématiques qui nous semble intéressante et novatrice. Donc, David Brie, le choix du festival, et donc, je l'assume parfaitement, le choix de la directrice artistique. David Brie, je vous ai rencontré évidemment par les livres, comme très souvent les écrivains, il y a pas mal de temps, une dizaine d'années au moins. C'était la trilogie d'Hervalon, qui était parue aux éditions Mnemos. J'avais qualifié cette série de roman frais. Ça voulait dire que c'était un roman non pas vif, acide, mais frais. Donc un jeune auteur qui n'avait pas encore toute cette expérience de la maturité d'un écrivain, mais déjà une envie de raconter. C'était contagieux. On voyait bien que c'était un jeune écrivain. Bon, quand on est un peu du métier, on le sent. Mais il y avait toute cette passion de raconter, toute cette envie. Et je me suis dit, tiens, c'est un auteur à suivre. Il est encore jeune, on le sent, mais vraiment, c'est contagieux cette envie de dire et de raconter des histoires. Et puis, je vais suivre un peu sa carrière. Ensuite, il a publié des romans sans doute pas inintéressants, j'en ai lu un, mais chez des petits éditeurs qui n'ont pas de diffusion, qui n'ont pas de moyens, qui ne savent pas toujours faire la promotion, qui ne pensent même pas envoyer leurs bouquins aux responsables de festivals. Et du coup, il est un peu sorti de mes radars, il a fait son petit chemin, il n'a pas touché un grand public. Et puis heureusement, comme ça arrive dans la vie des auteurs, il a rencontré de bons éditeurs, des gens qui avaient envie de s'engager dans littérature et de faire travailler les textes parce que c'est aussi un regard extérieur et un travail qui permet à un écrivain de maturer. On en discutera un petit peu juste à la fin de ce café littéraire. Mais voilà, je vais arrêter là parce qu'évidemment, vous êtes venus pour entendre non pas la directrice du festival, mais David Brie. Alors, on va commencer, comme je le fais souvent, par un court extrait pour plonger immédiatement dans son univers et en particulier dans celui de « Que passe l'hiver ?» qui a été publié par les éditions de L'Homme sans nom, Bon Choix, maison d'édition qui est de plus en plus intéressante et qui découvre des auteurs. Il faut saluer ces maisons-là. Et puis, évidemment, le Pocket vient de rééditer le livre là, il y a quelques jours avec une jolie bande, coup de cœur des Imaginales. Ça fait plaisir de voir que le festival aujourd'hui est apprécié par les éditeurs. Du nord vers les mages, de l'ouest ceux de la nuit, vers le rocher du Weg, qui vit le début, la fin. Du sud vinrent les prophètes, de l'est les changeurs de forme, à travers les forêts, bois et marais, à travers la clairière enneigée. Voilà, en huit vers, on pose déjà votre univers, David Brie. On voit bien nord, ouest, sud, est, les changeurs de forme, les prophètes, donc des catégories, des talents, des pouvoirs, et une clairière. On est dans la fantaisie, une sorte de fantaisie épique mais sans les grandes batailles, ça va se passer de façon plus intimiste comme une tragédie dans un lieu. David Brie, est-ce que ces quelques vers vous permettent de poser l'univers de Que passe l'hiver?
Oui, tout à fait. L'idée de mettre en place, de présenter, de proposer ces vers et ce poème qui suit tout le roman et qui raconte l'histoire de Stig, du roi de la clairière, au même titre que les chapitres peuvent le raconter, il était double. Il était effectivement à la fois de plonger dans l'ambiance. Que passe l'hiver, c'est Stéphanie l'a dit, c'est une tragédie. C'est une histoire qui est triste. C'est une histoire pleine de sentiments. C'est des gens qui n'arrivent pas à se rencontrer. C'est des gens qui n'arrivent pas à s'aimer. C'est des gens qui parfois se détestent. Et je trouvais qu'il n'y avait rien de mieux que la poésie pour essayer d'exprimer ça. Je suis émerveillé par les conteurs. Cette très longue tradition de conteurs qui est pour moi très proche de la poésie, qui déclamaient leurs histoires à leur auditoire. Et pour moi, ces poèmes, cette poésie, c'est aussi faire référence à ces conteurs, c'est aussi se mettre à la place de celui qui raconte une histoire. Stéphanie l'a dit, on est tous passionnés, on aime raconter nos histoires, et je me suis mis un petit peu à la place de ces conteurs. Donc l'idée, c'était effectivement de présenter ça et de mettre dans l'ambiance. J'ai voulu faire un roman poétique, j'ai voulu faire un roman qui soit à la fois doux et à la fois dur. Et la poésie a été pour moi le moyen d'essayer d'allier ces deux choses-là.
On va continuer à entrer dans ce roman « Que passe l'hiver hein ?» Court extrait, tout petit peu plus long, mais vous allez voir, on avance un petit peu dans ce monde. Revenu au-dessus de la route qu'il a amené, le corbeau repart à tire-d'aile en direction des collines et de la forêt d'où il est venu, malgré l'envie farouche de s'arrêter, de se poser et de s'imprégner de l'endroit qu'il attend de visiter depuis tant d'années. Le Weg, le cœur de ses terres, le cœur de la clairière. Les flammes dansent plus faiblement dans les braseros. Leur lumière mourante joue sur le visage opalin du roi, immobile sur son fauteuil de pierre. Elle n'y dévoile aucune ride, ne révèle aucune expression. Elle luise sur les étranges bois qui ornent sa tête et brille dans le noir insondable de ses yeux qu'il vient de rouvrir et dans lesquels un corbeau s'éloigne. À quoi pense-t-il ? À quoi peut penser un demi-dieu dont la vie ne tient plus qu'à un fil du destin ? Car il sait, bien sûr. Il sait le mensonge et la trahison, le désespoir et la mort qui approchent, avides. Il a deviné ceux qui mourront, ceux qui survivront, peut-être. Tout dépend maintenant d'un corbeau à la patte tordue. La clairière, on sent que c'est un monde du froid. On sent qu'il y a des animaux qui ne sont peut-être pas tout à fait des animaux. Un demi-dieu roi qui a des ramures un peu comme un cerf. Étrange monde du froid, étrange monde de la nature, étrange monde aussi de l'unité de lieu de la tragédie, David Brie.
Oui, tout à fait. C'est vraiment cette tragédie dont on parle beaucoup. L'idée, c'était de travailler sur les mythes et sur toutes ces histoires qu'on a tous entendues plein de fois, vues, revues, re-revues. Que passe l'hiver, c'est une sorte de c'est un peu ma visite à moi de tous ces contes nordiques, de toute cette ambiance enneigée, de tout cette puissance que je trouve dans les mythes nordiques, dans les mythes aussi grecs. Alors, on est très loin ici des mythologies grecques, mais il y a cette notion de drame. Pourquoi utiliser ça ? C'est que, par exemple, le roi à tête cornue, il est très proche de la figure de Cernunnos, qui est le dieu celte de la vie et de la mort. Que passe l'hiver, c'est une histoire de vie, une histoire de mort. Et utiliser ces figures, c'est, je trouve, un moyen facilitant de montrer ces visages-là, de montrer cette idée-là, sans forcément utiliser de mots. Il y a quelque chose moi, que je trouve très amusant, c'est la figure du corbeau qui est très présente dans le roman. Je voulais que Stig soit un corbeau. Et à un moment, je me dis, bon, je vais quand même vérifier les symboles qui sont attachés au corbeau. Et dans la mythologie, le corbeau est nordique. Le corbeau, c'est le messager des dieux. Et étonnamment, ça collait parfaitement à la figure de Stig. Tout ça pour dire quoi ? Ça pour dire que je crois que tout ce corpus de mythes, de légendes, je crois qu'on les connaît tous plus ou moins, ils nous parlent tous plus ou moins, et les utiliser, les transformer dans la fantasy comme on le fait beaucoup, et on est plusieurs auteurs à le faire, ça permet d'avoir un second niveau de langage. On a les mots, on a la sonorité du texte, mais on a aussi toutes les images que cela évoque chez nous en tant qu'auteur, mais aussi chez vous, le lecteur, et je trouve que c'est un moyen très fort de raconter une histoire.
Pourquoi ce choix ? Alors, c'est pas tout à fait vrai. On s'éloigne parfois un petit peu, mais il y a quand même globalement une unité de lieu autour de la clairière. Pourquoi ce choix dans la narration ?
Je voulais une histoire triste, une histoire violente. Et cette violence qui est dans les sentiments, c'est très violent comme c'est l'amour qui est très fort, c'est la haine qui est très forte, c'est le désespoir qui est très fort. Il y a aussi beaucoup de combats. Il y a du sang qui coule régulièrement. La mort rôde et frappe. Et toute cette violence, je voulais la présenter un peu comme sur une scène de théâtre. Je me suis posé la question, dans quel est l'endroit dans lequel je pourrais une sorte d'écran en fait, voilà, quel écran je pourrais donner à ce déchaînement de passion. Et du coup, j'ai imaginé l'exact inverse de cette passion. C'est un endroit paisible. La clairière, c'est un endroit qui c'est une suite de forêts, c'est un ensemble de montagnes, c'est des fleuves qui coulent, c'est des arbres enneigés, c'est des lacs gelés. C'est extrêmement paisible, sauf que derrière tout ça, la mort rôde, les poignards frappent. Et c'était vraiment opposer ces deux éléments pour les magnifier l'un et l'autre. La clairière, c'est un endroit que j'ai adoré arpenter dans mon imagination. Et j'ai trouvé ça parfaitement adapté à une histoire terrible.
Le personnage qui va être un peu au cœur, au-delà du roi lui-même, le personnage de ce jeune fils de famille, ce fils cadet qui n'est pas très aimé de son père, c'est le moins qu'on puisse dire, qui n'est pas a priori le grand guerrier qu'il attendait, qui n'est pas promu à un grand destin de la fantaisie. C'est lui que vous avez choisi comme personnage principal, même s'il y en a plein d'autres attachants autour. Pourquoi David Brie ?
Je déteste les héros. Je déteste les gens très forts. Parce que je trouve que... après, c'est mon point de vue, mais je trouve que on n'a pas forcément de mérite à gagner quand on est grand, beau, fort, intelligent et que toutes les étoiles se sont percées sont penchées sur notre berceau. Je trouve que le vrai courage, il est dans l'adversité. Le vrai courage, il est dans le fait de poursuivre encore et toujours, d'y croire. Et c'est en ce sens-là que j'aime ces héros qui sont abîmés par la nature, abîmés par la vie et qui malgré tout se dressent ou malgré tout restent debout ou malgré tout avancent. Je trouve ça courageux, je trouve ça touchant. Et je trouve qu'on a une très forte tendance à toujours parler de ceux qui ont des gros muscles ou vraiment des super-héros. Parlons aussi de ces gens-là, pour qui rien que le fait d'exister est parfois une gageure. Racontons aussi ces gens-là qui ont des difficultés. Pourquoi ? Parce que je pense que dans la salle, il n'y a pas beaucoup de super-héros. Moi, j'en suis pas un. Et je crois qu'on... On touche plus les gens en leur racontant des gens qui leur ressemblent. Moi, quand je lis un roman, quand je lis une histoire, j'adore lire, je suis comme vous tous, j'ai besoin de m'identifier, j'aime j'aime voyager. Et moi, je n'arrive pas à voyager à côté de gens qui ne me ressemblent pas. Moi, je sais voyager à côté de gens qui boitent, je sais voyager à côté de gens qui doutent, et je ne sais pas raconter d'autres histoires que celles de ces gens-là parce qu'elles ne m'intéressent pas. Et Stig, je le dis souvent, Stig, le héros de Que passe l'hiver, c'est l'un des personnages les plus courageux que j'ai jamais inventé. C'est un personnage qui me touche énormément parce que malgré toutes les difficultés, malgré toute la douleur, Stig continue et va essayer.
Justement, on va découvrir un peu plus Stig. Ombre plante ses yeux dans ceux du jeune homme. Elle attend un moment, puis à voix basse lâche un mot, un seul « magie ». « Tu penses au clan Lingen ?» demande Stig interloqué. Elle acquiesce. Et aussitôt, le jeune Feren revoit l'expression cruelle et amusée sur le visage de Dame Tuttesund. « Y aurait-il une raison à ce qu'il lui en veuille ?» demande-t-il intrigué. « Pas à ma connaissance, mais il y en a forcément une. Et c'est cela que je dois découvrir pour savoir qui a tué mon père et pour le venger. » Stig secoue la tête confus. S'il a appris par son frère que certains seigneurs s'apprécient plus ou moins, jamais son aîné ne lui a parlé de quelconque querelle et encore moins d'assassinat. Peut-être n'aurait-il pas dû venir ici sans lui en parler d'ailleurs. Je n'ai rien dit à ma mère pour ne pas ajouter à sa souffrance. Ça ne servirait à rien. Quant au soigneur du clan, puisqu'il n'a rien trouvé de suspect sur mon père, aucune marque, aucune trace sur son corps, ni même dans sa gorge, il refuse d'entendre mes soupçons. Je ne sais pas vers qui d'autre me tourner, mais tu n'es pas venu par hasard. Tu es vu comme moi mon père tomber, et tu ne crois pas non plus qu'il se soit étouffé. Elle tend sa main ouverte en direction du jeune homme, puis demande « M'aideras-tu alors, Stig Feren ?» Appelle à l'aide à ce personnage pas si fort. Peut-être que d'autres commencent à découvrir qu'au-delà des apparences, c'est peut-être un personnage plus solide qu'on ne l'imagine au début du roman, ou surtout qu'on imagine son père.
Oui, tout à fait. Y a ça, il y a aussi la gentillesse. Je suis quelqu'un qui aime la gentillesse. Je trouve que c'est une grande valeur. Elle est parfois un peu galvaudée. Stig, c'est un vrai gentil. Alors, il a ses défauts, comme tout le monde. Et je crois que la gentillesse, ça se sent, ça se devine. Et surtout, quand on est désespéré comme Humbre peut être désespéré suite à la mort de son père, elle ne sait pas vers qui se tourner. Et il se trouve que Stig est là, Stig a été touché par quelque chose, il est là et il voit cette jeune femme qui a besoin d'aide. Stig est marqué par la vie, et du coup, comment résister à un appel à l'aide quand on sait ce que c'est que la souffrance, quand on sait ce que c'est que d'être seul. Je crois qu'on n'y résiste pas ou difficilement. Et c'est là aussi toute la beauté de ce personnage. Et après, on parle de force. Je parlais tout à l'heure de courage. Il en faut du courage pour survivre à un père qui vous aime, qui ne vous aime pas ou qui vous aime mal. Il en faut du courage pour survivre à la mort de sa mère. Il en faut du courage pour survivre quand on a un frère qui est, pour le coup, lui, grand, beau, fort, intelligent, loyal. En plus, il est loyal.
Même pas le détester.
Oui, on peut même pas le détester, mais c'est une catastrophe. Et malgré tout ça, Stig poursuit, essaye d'être bon. Et je pense que c'est très difficile. Et pour ça, il faut une force d'âme qui est juste incroyable. Je suis admiratif de ce personnage.
C'est presque une déclaration, c'est incroyable. On a l'impression que vous parlez comme un amoureux transi de ce personnage. C'est quand même frappant, David. Vraiment, vous l'aimez ?
Mais je l'aime beaucoup. Alors, j'aime aussi beaucoup, beaucoup ceux qui sont bien moins sympathiques dans Que passe l'hiver. Il y a une certaine fascination. Stig, je le trouve. Je suis très sensible au merveilleux. Je suis très sensible à l'émerveillement. Et c'est quand on crée des personnages, on donne certaines de nos facettes, on donne certaines facettes de nos proches et certaines facettes des personnages qu'on a pu rencontrer en littérature ou ailleurs. J'ai donné à Stig mon sens de l'émerveillement parce que je trouve que c'est une qualité qui est importante. Je crois que c'est une qualité qui est liée au bonheur. Je crois que c'est aussi une qualité qui est liée à l'autre. Si on sait s'émerveiller, on sait s'émerveiller de l'autre, on sait aussi partager. J'ai donné ça à Stig parce que je trouve que c'est une très grande qualité. Et j'adore aussi les méchants. Alors, je ne révélerai pas de nom, mais ils sont intelligents. Ils sont résolus, qui est aussi une qualité extraordinaire. Ils sont des fois un peu vicieux. Il y a notamment un personnage qui est extrêmement vicieux et c'est amusant. Je l'aime pour ça, ce personnage. Elle n'est pas que méchante, loin de là. Elle est aussi méchante. Et je l'aime beaucoup. Je crois que quand on crée des personnages, on donne du coup, comme je le dis, beaucoup de choses de nous, des autres. Et on ne peut que les aimer, même s'ils sont méchants, ou plutôt même s'ils font des mauvais choix de notre point de vue, mais qui sont des bons choix de leur côté.
Que passe l'hiver, rien que le titre, c'est aussi une saison. Pourquoi avez-vous choisi l'hiver, David Brie ?
J'adore l'hiver. Je parlais tout à l'heure de la Clairière comme un endroit apaisé. Je trouve la neige très apaisante. C'est vraiment une... oui, apaisant, c'est le mot qui me vient à l'esprit. J'habite à la campagne. Je me suis beaucoup inspiré de là où je vis pour les saisons. J'habite dans un endroit où il neige régulièrement l'hiver avec des arbres enneigés. Et c'est tellement apaisant. Je parlais tout à l'heure du conteur. Cette image de raconter une histoire au coin du feu alors qu'il neige dehors, rien que ça, moi ça me fait tout de suite imaginer des millions de choses. Donc oui, j'aime l'hiver, j'aime le froid. Je suis plus à l'aise au froid, avec le froid qu'avec la chaleur. Parce que ça rapproche. Quand on a froid, on se rapproche de l'autre. On veut se réchauffer, que ce soit physiquement, avec un feu, avec un chocolat chaud. Mais on veut aussi des fois réchauffer juste son âme. C'est là où on se rapproche, où on joue, où on lit, où on parle. Une fois de plus, là où j'habite, j'ai la chance d'avoir une grande cheminée. Et avec ma famille, avec mes amis, on se retrouve au coin du feu. Et on se raconte des histoires, on parle, on échange. C'est ça que je trouve apaisant, c'est ça que je trouve chaleureux. Et pour revenir un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est... Du coup, tellement en opposition avec la violence des sentiments, avec la violence et la noirceur de cette histoire, que forcément, ça ne pouvait que magnifier les deux. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire en tout cas.
Le froid, l'hiver, la neige. La place de la neige dans cette histoire, David Brie.
Il neige de la première à la dernière page. Il neige quasiment tout le temps. Un peu comme les larmes, que passe l'hiver, une fois de plus, c'est une histoire qui est triste. Cette neige, c'est les larmes qui coulent sur la clairière, c'est les larmes qui coulent sur... cette histoire, c'est un crépuscule. Que passe l'hiver, c'est l'histoire d'un crépuscule, c'est un crépuscule. Et du coup, la clairière, oui, peut aussi pleurer à sa manière. Et la neige représente aussi ça, c'est la beauté, c'est la tristesse, c'est l'apaisement, mais c'est aussi un passage vers autre chose.
Évidemment, la nature, la neige, le froid, cet univers, ce contexte, les légendes, on commence à voir l'univers, la richesse et la force de cet univers. C'est ce qui m'a donné tout de suite envie de faire de vous le coup de cœur du festival cette année. Alors je vais lire un dernier extrait de ce roman, un tout petit peu plus long que les autres, parce que justement, je veux vous faire entendre autre chose, ce qui est la magie dans le roman. Et la façon dont David Brin nous la présente. Quelqu'un s'éloigne de l'imposante bâtisse des magiciens. Une silhouette fine et gracile, aux longs cheveux blonds qui avancent dans la neige. C'est elle, la jeune femme si belle qu'il avait observée lors des banquets précédents. Elle marche seule vers le rebord du plateau. Sans réfléchir, Stig rabat ses ailes, plonge et file dans sa direction. Que va-t-elle y faire? Il n'y a rien d'autre là-bas que la falaise qui tombe à pic sur des centaines de pas jusqu'à la plaine émaillée de rochers, de bois et de lacs. La silhouette avance, résolue. Ses cheveux volent dans l'air glacé du matin, s'en mêlent sur son visage. Sous un manteau de laine sombre, elle porte la même longue robe blanche que la veille. Un morceau de roche émerge de la mer de neige, près de l'endroit vers lequel elle se dirige. Grisé par la vitesse, l'oiseau termine sa descente en quelques larges cercles et, dans un ultime battement d'aile, atterrit maladroitement dessus. La jeune femme ne l'a pas vue. Pourquoi se soucierait-elle d'ailleurs d'un corbeau à la patte tordue, posé non loin d'elle? Arrivée à quelques pas du précipice, elle s'arrête. Elle observe un moment le paysage qui s'étire à perte de vue devant elle, la plaine blanche immense, puis fouille à l'intérieur de son manteau. Elle en ressort une gourde en peau, pas plus grande que la paume de sa main. Elle ferme les yeux un instant. Puis, d'un mouvement sûr, habitué, elle en dévisse le bouchon. Posée sur son rocher, Stig a deviné ce qu'elle fait. Le sang des oiseaux de crin, qui vivent à la frontière entre les mondes des hommes et des esprits, permet au Lungan de voir au-delà du voile. Il n'avait jusqu'à ce jour jamais observé un mage à l'œuvre, mais Anasi lui avait appris cela. Lorsque la jeune femme rouvre ses yeux, son regard n'a plus rien de la tristesse et de la douceur qu'avait remarqué Stig. Une pellicule translucide recouvre ses iris devenus troubles et plus clairs encore. La magicienne fronce les sourcils, observe un moment l'endroit autour d'elle comme si elle le découvrait et voulait s'orienter, puis s'immobilise à nouveau. Elle se redresse, droite, et commence à parler, seule. Stig tend l'oreille, essaie d'attraper les mots portés par le vent, puis il ouvre son bec surpris. Elle ne parle pas, elle chante. Deux personnages, vous avez Stig. Alors, la magicienne, il y a donc de la magie. Les pouvoirs différents. Les uns peuvent voir au-delà du voile qui semble une sorte de brume qui cache l'avenir, en tout cas la vérité. Et puis d'autres ont d'autres pouvoirs. Stig, il a le pouvoir de se métamorphoser, on va quand même le découvrir très vite. On ne va pas dire tous les pouvoirs qu'il y a dans ce roman, on le découvrira. En fait, chaque famille a un talent, un pouvoir. Est-ce qu'ils vont s'en servir les uns contre les autres? Ou est-ce qu'ils vont les mettre en commun? C'est peut-être aussi ça l'enjeu du roman, David Brie.
Oui, tout à fait. Et ça parle, mais pareil, c'est une métaphore de on a tous des pouvoirs, on sait tous faire certaines choses. Dans le roman, effectivement, comme vous venez de le dire, chaque famille est identifiée avec un pouvoir. Ce pouvoir, il ne vient pas de nulle part, ce pouvoir, il vient du sang. Le sang des premiers ordrins qui sont mi-hommes, mi-dieux. Donc ce sont les descendants des dieux, et chaque famille est quelque part descendant de ces dieux-là, et a son dieu tutélaire, et chaque famille a son pouvoir. Les pouvoirs, c'est un grand don, mais c'est aussi quelque chose dont on peut servir à mauvais escient. Dans la longue histoire de la clairière, des familles ont déjà tenté d'user de leur pouvoir contre les autres, et en ont été punies. Certaines ont failli disparaître, d'ailleurs, et ont failli perdre leur pouvoir. Utiliser ces pouvoirs, notamment le pouvoir de voyager dans les ombres, pour commettre un forfait, et quelque chose qui a été puni très durement par le dieu de la clairière. Du coup, il y a des interdits très puissants. Les pouvoirs restent aussi très mystérieux. Les clans dans le monde de la clairière ne se mélangent pas. Chacun vit sur ses terres, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et ils ne se voient qu'une fois par an, lors du solstice d'hiver, lorsqu'ils se retrouvent auprès du roi. Et comme ils ne se mélangent pas, ils ne se connaissent pas, à part les seigneurs qui se voient de temps en temps. Et du coup, les pouvoirs de chacun restent très mystérieux aux autres. Stig, qui se rend pour la première fois sur la montagne du roi, voit du coup pour la première fois les autres clans. Il est émerveillé, il est fasciné par ses pouvoirs. Pour lui, se transformer en corbeau, c'est tout à fait normal. Il le fait tout le temps. C'est comme nous, les faire les courses. Et du coup, les pouvoirs des autres familles, effectivement, le fascinent, l'émerveillent. C'est une autre manière d'accéder au monde de la clairière. C'est une autre manière d'accéder aux contes et légendes de la clairière. C'est une autre manière de vivre ces histoires qu'il entend depuis tout enfant. Ces histoires de gens qui vivent loin de chez lui, qui sont très différents de lui et qui ont d'autres dons que lui. Et c'est effectivement quelque chose que j'ai voulu. Ça permet à la fois d'identifier les forces et les faiblesses de chacun et d'ajouter quelque chose à tout ce monde de la clairière. Ça fait un lien entre les hommes et les dieux. C'est un lien, je pense, qui est très fort. C'est le mythe. Et c'est ce qui a permis, effectivement, je crois, de donner l'identité à chaque famille avec des pouvoirs qui les façonnent aussi un peu. Le père de Stig, je parlerai juste de lui, se transforme en ours. Il y a une phrase moi, que je me suis un peu amusé à écrire où à un moment Stig parle à son frère et il dit « Mais c'est pas parce que notre père se transforme en ours qu'il est soupelé comme un ours. » Mais bien sûr que si. Donc c'est juste pour dire que leur pouvoir les transforme, leur pouvoir leur donne une vision du monde qui forcément les change eux.
Justement, on est dans la fin d'un équilibre parce qu'on sent bien que ces différents pouvoirs, ces différents clans, ils sont à la fois en conflit potentiel, ils sont différents, ils ont des intérêts qui peuvent être différents, mais jusque-là, dans ce monde, ils sont unis autour du roi qui fait consensus. Et le moment de ce rassemblement, si j'ai bien compris le roman, dans la clairière, c'est un moment d'unité. C'est une façon de rappeler une sorte d'équilibre qui a été conclu entre ces différentes forces. Or, évidemment, raconter une histoire, c'est raconter la rupture de l'équilibre, David Brie.
Oui, tout à fait. L'extrait que vous avez lu au début, où effectivement, chaque clan vient d'un endroit de la clairière, et comme je le disais, chacun vit sur ses terres. Et une fois par an, il se retrouve au cœur de la clairière. Ce n'est pas le cœur pour rien, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est le centre. C'est ce qui les unit. Et le roi, il représente tout ça. Les seigneurs de clan ne le voient qu'une fois par an pour renouveler leur allégeance, pour redire leur appartenance à ce monde, pour redire leur appartenance à cette longue histoire, à ce long mythe. Dans le roman, régulièrement, on lit des conteurs qui racontent comment le monde a été créé, comment le dieu Urian, qui est le dieu de la clairière, il a fait s'élever les montagnes, comment est-ce qu'il a créé, fait couler les rivières, comment est-ce qu'il a créé les clans, et d'où est-ce qu'ils viennent. Revenir au cœur de ces terres, c'est revenir à la source du mythe, et c'est vraiment ça. Le roi est là pour rappeler l'histoire commune, est là pour rappeler l'appartenance commune, et c'est un moment qui est fondateur pour les clans et qui est renouvelé chaque année. Et effectivement, cette année-là, ce solstice-là, le premier auquel Stig se rend, va être pour le coup très différent des autres.
Est-ce que c'est quelque part, évidemment, complètement différent, il n'y a pas d'armée, est-ce que ce n'est pas Game of Thrones, la bataille pour le pouvoir qui s'engage ?
Alors, j'ai toujours pas lu Game of Thrones, je ne l'ai toujours pas vu, ne me jetez rien. Mais l'enjeu de pouvoir, c'est un enjeu qui est extraordinairement moteur. C'est quelque chose qui fait bouger les gens parce que ça parle de conviction. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans les conflits de pouvoir. Dans les conflits de pouvoir, il y a, j'allais dire, rarement des purs gentils, des purs méchants. C'est qu'on a juste des convictions différentes. On se bat pour ce que l'on pense juste. On se bat pour ce que l'on pense meilleur. On se bat des fois aussi juste pour survivre ou pour soi. Et pour tout ça, il faut avoir le pouvoir. Le pouvoir peut être juste de la force brute, mais peut être aussi une alliance pour être ensemble et imposer sa vision. Forcément, ceux qui ne sont pas d'accord sont en réaction. Et ça permet du coup des enjeux qui sont au-delà des enjeux purement personnels. Ça peut être aussi il s'agit de visions différentes de la société et de ce que doit être la vie. Et je crois que c'est important. C'est très important de présenter ça, de présenter des points de vue différents sans juger. Je déteste les histoires manichéennes. Je crois que quelqu'un ne peut pas être uniquement bon ou uniquement mauvais. C'est juste une question de point de vue. Et effectivement, ce sont des équilibres de pouvoir.
Que passe l'hiver et que passe cette partie de la discussion? Mais est-ce que c'est un roman qui est clos? L'histoire se clôt sans aucun problème. Est-ce que quand même un jour, parce que vraiment c'est un univers inouï, moi, qui m'a bouleversé, passionné, enthousiasmé, est-ce que c'est un univers dans lequel vous reviendrez plus tard, David Brie?
Alors, comme vous l'avez dit, c'est un roman qui se termine et je l'ai écrit comme c'était un one shot, c'est-à-dire un roman qui se suffit à lui-même et qui n'aura pas de suite. c'est un monde que j'ai adoré arpenter. Je crois que je suis comme tous les auteurs. On a deux vies parallèles. On est presque normaux, mais on a quand même deux vies parallèles. On a la vie de tous les jours. Je suis ici avec vous. Et en même temps, on vit dans les mondes que l'on raconte. On vit dans les mondes que l'on imagine, qui grandissent au fur et à mesure. Moi, il suffit que je me promène 5 minutes dehors et je suis parti dans le roman sur lequel je suis en train de travailler. Et un roman où je peux à peu près un an et demi écrire un roman, ça veut dire que pendant un an et demi, j'ai une partie de mon esprit, une partie de mon cœur, une partie de mon imagination qui est ailleurs. Et la clairière, c'est un monde que j'ai adoré arpenter, que j'ai adoré imaginer, avec des personnages qui souffrent et que j'aimerais retrouver. Et c'est un monde qui, je crois, il y a d'autres choses à raconter. Et surtout, moi, ce qui m'anime beaucoup, c'est... Et après, que se passe-t-il une fois que l'hiver est passé? Que se passe-t-il une fois que tous ces événements ont été à leur fin? Et après le crépuscule, que voit-on? Donc rien n'est encore décidé. Je crois que ça dépendra aussi beaucoup du succès du roman. Mais oui, j'adorerais revenir dans la clairière. J'ai une histoire, elle ne meurt jamais vraiment complètement. Une fois qu'on l'a finie, une fois qu'on l'a écrite. On n'est pas toujours maître de son imagination. J'ai régulièrement des pensées sur ce qui va se passer après. Que vont-ils dire? Que vont-ils devenir? Et du coup, oui, j'aimerais beaucoup, beaucoup revenir dans ce monde-là. Dans pas trop longtemps, j'espère.
J'ai du mal, mais on va quitter le monde de Que passe l'hiver. Vous n'aurez pas de mal, puisque vous allez avoir le plaisir de le découvrir tout à l'heure sous la bulle du livre, où David vous le dédicacera évidemment très gentiment. Vous verrez, c'est vraiment une belle découverte. Pour moi, c'est vraiment un des meilleurs romans de fantasy français de ces 10 dernières années. Vraiment, c'est un grand livre. Il a d'ailleurs été nominé au prix Imaginal. Bon, il a été battu que sur le fil par Pierre Bordage, il n'y a plus déshonorant. Mais franchement, c'est un livre qui a beaucoup plu aussi au jury et qui vraiment mérite que vous le lisiez, que vous le fassiez lire autour de vous. Que ce soit en édition grand format ou en édition poche, on peut acheter le poche pour soi et le grand format pour l'offrir. On va dans un tout autre univers. D'abord, c'est un livre pour la jeunesse. Alors, je précise que pas pour les tout-petits, c'est un livre plutôt pour les collégiens, les grands collégiens, les lycéens. Et il est parfaitement lisible par les adultes. Beaucoup de plaisir à le lire. Mais là, on est à la fois donc, dans du roman plutôt pour la jeunesse. On est dans un univers beaucoup plus contemporain, en tout cas proche de nous. Allez, un petit extrait qui est tout simplement le chapitre 1, très court. En ce 11 novembre 1808, la nouvelle loi relative à la stabilité de l'Empire ordonne que soit créée la police de la norme, que cette police de la norme arrête toute personne coupable de difformité physique ou mentale, de toute maladie de même nature, ainsi que toute conduite ou mœurs contraire à la nature. Que tout citoyen permettant la découverte d'un individu présentant des troubles d'anormalité soit récompensé d'un quart d'once d'or. Philippe de Saint-Suifre, archevêque, premier commandant de la police de la norme. Le sabre et le goupillon, là, c'est vraiment en même temps David Brie. On ne serait pas dans une dystopie par hasard?
Si, si, complètement. C'est un monde qui est très proche du nôtre, très très proche du nôtre, avec juste quelques petites différences, et la plus grande de ces petites différences, c'est cette loi, la loi de la norme, qui stipule, comme vous venez de le raconter, tout ce que l'on n'a pas le droit de faire, et surtout tout ce qu'on n'a pas le droit d'être, avec, cerise sur le gâteau, cette petite aide et invite à la dénonciation. C'est vraiment le petit fumier supplémentaire. Oui, c'est complètement une dystopie. Le monde qui m'effraie, le monde que je voudrais éviter. C'est évidemment quelque chose, on est ici dans le Paris du 19e siècle, enfin dans un Paris du 19e siècle, mais ça fait bien évidemment référence à des événements, à notre société, à nous. Je crois qu'on écrit, beaucoup sur ce que l'on est, sur ce que l'on voit, sur ce que l'on ressent, sur ce qu'on craint. Et c'est totalement ça. Le garçon est une dystopie et l'un des mondes que je redoute.
La police de la norme, on a bien vu, on peut paraître, c'est quand même très excessif. Je rappelle aux plus jeunes d'entre nos lecteurs et nos auditeurs que il y avait une police de la norme en France, encore en 1980. C'était la brigade des parcs et jardins, qui opérait dans les parcs et jardins et dont le rôle était de traquer les homosexuels qui cherchaient des lieux de rencontre. C'était il y a 30 ans, hein. C'était la France de ma jeunesse. Heureusement, il n'avait pas peut-être que des qualités, mais le président François Mitterrand, au moins, a supprimé cette absurdité, a renvoyé ses chers policiers à des tâches probablement meilleures, en tout cas, je l'espère. Oui, justement, le rapport, quand on fait une dystopie, entre ce qu'on est, ce qu'on vit, notre société. C'est la loupe grossissante, en quelque sorte, la technique de la dystopie.
Oui, mais c'est exactement ça. C'est là, je trouve, c'est l'une des grandes forces de l'imaginaire. L'imaginaire, ça permet, soit, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est soit de travailler des symboles, des métaphores, tout cet imaginaire commun que l'on a, et qui parle de choses très personnelles. Mais ça peut aussi, dans d'autres cas, et c'est le cas du garçon, parler de choses qui sont de beaucoup plus vastes. On peut parler de société, on peut parler d'avenir, on peut parler d'écologie. L'imaginaire s'empare de tous ces sujets. Et c'est là où je trouve que c'est une littérature qui est à la fois, que je trouve passionnante, bien sûr, mais qui est aussi très d'actualité, c'est et qui nous fait réfléchir, enfin qui invite le lecteur à réfléchir. Donc là, effectivement, c'est complètement contemporain, ça parle complètement de notre société, et c'est ce que j'ai voulu faire, c'est le message que j'ai voulu faire passer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je déteste tout ce qui est manichéen, et je déteste encore plus qu'on me donne des leçons. Donc je ne supporte pas non plus de donner des leçons. Et ce que j'ai essayé de faire dans ce roman, c'est juste de proposer, de montrer quelque chose qui pourrait être, qui pourrait exister, qui, comme vous l'avez dit, a existé, et d'ailleurs existe encore sur d'autres sujets et d'autres pays, et de dire, ben voilà, regardez ce monde-là, regardez ce trait que je force juste un tout petit peu, et pas tant que ça, et qu'est-ce que vous en pensez, vous, lecteur? Et c'était vraiment le sens de cette histoire. Au-delà, bien sûr, il y a aussi des considérations plus personnelles. Les héros réfléchissent, se battent, veulent se sauver, veulent survivre, veulent aussi être qui ils sont. Ça parle aussi de ces aspects plus personnels. Mais il y a, en toile de fond, cette réflexion plus générale, plus sociétale, et réfléchissons ensemble à quelle société, à quel monde on veut.
Très court extrait. La cour des miracles. L'île est plus petite que le quartier du Sénat, moins éclairée que les ruelles de Mouffetard et de Saint-Victor où s'entassent les miséreux. Privée de la lumière des lampadaires à gaz, elle semble déserte, comme si tous les anormaux qu'elle abrite, nains ou fous, mal formés, obèses, défigurés, et tous ceux rejetés là par les lois de la norme avaient disparu. Romain sait cependant que ce n'est pas le cas. Il vérifie que personne ne l'observe depuis les fenêtres des maisons les plus proches, jette un regard à l'embarcadère de la ville, bien qu'il sache sa précaution vaine. Il est bien trop loin pour être vu des policiers qui interdisent aux anormaux de traverser la Seine. C'est une sorte de camp de concentration à ciel ouvert dans ce monde, la cour des miracles.
Mais exactement. C'est quand on rejette l'autre, on ne veut pas le voir. On l'utilise parce qu'il coûte moins cher. Les anormaux, ils sont utilisés dans Paris comme livreurs, comme gens qui coûteront beaucoup moins cher. Ils font tous les travaux ingrats. Mais une fois qu'ils ne servent plus, sont des outils, eh bien, remettons-les loin de nous, loin de la bonne société. C'est complètement un ghetto. Et des ghettos, on connaît ceux de la Seconde Guerre mondiale, mais il y en a tellement des ghettos. Il y a les ghettos d'Afrique du Sud, il y a les ghettos de la guerre des Boers, ou pareil, les camps ont commencé à exister là. Il y a les ghettos qui sont aujourd'hui encore, mais très actuels, les gens défavorisés qui sont parqués entre eux dans des endroits où les transports sont mal desservis, des endroits qui sont forcément défavorisés. On a des dizaines de ghettos, des ghettos qui sont des ghettos physiques, des ghettos mentaux, et on relègue les gens qu'on ne veut pas voir auprès de nous.
Ce sera le dernier extrait avant de continuer à vous interroger. On y va. Romain songe au jardin des plantes, à la clé offerte par Ambroise. Pas encore. Bon, tu fiches quoi ici? T'as tout l'air tout le revenu de la haute bicherie? La haute bicherie? À coup s'esclave. Les bourgeois et les aristos, quoi, explique-t-il. Je ne suis pas un anormal. À coup et Lyon l'observe surpris. Qu'est-ce que tu fiches sur l'île alors? Interroge de nouveau ce dernier. Je suis venu te voir. Mais Zig? Oui. Pourquoi que ça? Parce que vous êtes en danger, déclare le garçon d'une voix grave. L'étonnement de ses hôtes laisse place à l'incrédulité la plus totale. Mon père est le chef de la police, poursuit Romain. J'ai surpris une conversation dans son bureau hier soir entre lui et un homme que je n'ai pas vu. Il parlait de vider la cour des miracles. Alors après la constitution du ghetto, la menace de l'extermination, c'est le premier pas qui coûte dans la discrimination, David Brie?
Mais exactement. Je crois qu'il faut être très attentif au mouvement qu'il y a autour de nous. L'histoire nous a montré à plusieurs reprises que, petit à petit, si on n'est pas attentif, et surtout si on n'est pas courageux, le monde peut prendre des directions que l'on ne souhaite pas. C'est difficile de savoir quand intervenir, c'est difficile de savoir où est-ce que sera le point de non-retour. Et c'est une question que je me pose, je n'ai pas la réponse. Je pense qu'on n'a jamais... Enfin, c'est très difficile d'avoir la réponse. Et à côté de ça, il est très facile de laisser les gens avancer, les gens qui sont mal intentionnés, et quand on avance dans l'horreur, là, on n'est pas à ce degré-là, mais quand on avance dans l'horreur, chaque petit pas, c'est finalement dit, c'est pas grand-chose, c'est juste un petit peu pire, on s'est juste un petit peu pire. Et quand on prend un peu de recul, au final, et qu'on regarde le début et la fin, c'est terrifiant. Donc on est exactement là, c'est qu'on commence par discriminer l'autre, on commence par le mépris, on le méprise, et puis on le met un peu plus loin de nous, encore un peu plus loin, on le voit plus, et puis au final, quand il est loin, c'est tellement déconnecté, débarrassons-nous-en. Oui, non, c'est vraiment une histoire que l'on a déjà vécue plusieurs fois dans notre histoire et qui est terrifiante.
On voit bien qu'il y a une différence importante dans les deux univers et dans y compris ce que vous avez envie de dire. Est-ce que par la métaphore ou le livre plus politique, faut appeler un chat, même si tout livre reflète plus ou moins, même s'il est discret, les sentiments, sinon les opinions, en tout cas les ressentis de leurs auteurs, est-ce qu'une dystopie est nécessairement un livre plus directement politique, je dirais, qu'une fantaisie poétique comme Que passe l'hiver?
Je crois que oui. Dans Que passe l'hiver, j'aborde, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les questions de pouvoir. Il y a un moment, il y a Stieg qui reflète moi mes propres interrogations, hein, qui explique que on ne peut pas vouloir le pouvoir et en même temps être généreux. C'est ce qu'il dit en substance. Et qu'il faut se méfier des gens qui veulent le pouvoir. Le garçon, effectivement, c'est quelque chose qui parle de manière plus générale d'une vision de la société. Et la fantaisie, je crois que à travers les métaphores, les symboles dont j'ai déjà parlé, permet de parler de choses qui sont très enfouies en nous, très et qui n'ont pas forcément de mots associés. Et c'est là où j'adore cette littérature, là où la dystopie va permettre d'exposer des idées avec des mots, d'exposer des structures. Et c'est là où je trouve effectivement la force de ces récits qui sont plus contemporains, plus modernes. Alors la science-fiction s'empare beaucoup de ces éléments-là, l'anticipation aussi. L'Uchronie et la dystopie sont aussi des outils que je trouve très forts parce que comme ce sont des mondes plus proches du nôtre, avec juste un tout petit peu de décalage, on peut, c'est comme si on faisait un pas de côté en fait, en disant tenez, faites un pas de côté et regardez le monde un tout petit peu différemment, c'est presque comme le nôtre, pas complètement, et regardez ce qu'on peut y faire. Et du coup ça, effectivement, ça permet de dénoncer des structures, des organisations, des idées, des fonctionnements, et ça touche, comme vous le disiez, hein, ça touche notre vision à nous en tant qu'auteurs, ce que l'on croit. Après, on partage notre vision, on propose notre vision, et puis on essaye d'interpeller le lecteur. Après, libre à lui de faire son choix. Ce que j'ai beaucoup aimé dans Le Garçon, je l'ai dit tout à l'heure, je n'aime pas donner de leçons. J'expose les deux points de vue. Alors forcément, il y en a un que je ne partage pas. Mais d'exposer, il y a notamment un discours, le discours du premier évêque qui a voulu édicter les lois, enfin qui a d'ailleurs imposé les lois de la norme, qui explique à quel point la différence est menaçante. Il explique très de manière raisonner qu'une société c'est fait de gens qui se ressemblent, parce que quand on se ressemble, on peut se faire confiance, on sait comment pense l'autre, on sait qui il est, on sait d'où il vient, il n'y a pas de peur, et que du coup, dès qu'on a quelqu'un qui arrive, qui est différent, qu'est-ce qu'il veut, que fait-il là, pourquoi est-ce que je lui ferai confiance, et petit à petit, en effritant la confiance, en se demandant d'où vient l'autre, il explique qu'une société ne peut pas tenir avec des gens qui sont différents, ça ne marche pas, et c'est l'effondrement de la société. C'est un raisonnement qui ne me convainc pas, mais c'est un raisonnement. Et du coup, est-ce que, en réfléchissant, on le trouve juste ou pas? Est-ce qu'on y accorde du crédit ou pas?
Oui, mais une fois qu'on aura éliminé ceux qui n'ont pas la même couleur de peau que nous, une fois qu'on aura éliminé les gays, les lesbiennes, les transgenres, une fois qu'on aura éliminé les migrants, les demandeurs d'asile, une fois qu'on aura éliminé les gens un peu trop gros, un peu trop maigres, une fois qu'on aura... La liste commence à s'allonger, là, il y en a certains, là, celles qui disent « Ah ouais, je suis dans la bande ». Une fois qu'on aura peut-être ramené les femmes à leur juste place, c'est-à-dire inférieures aux hommes, une fois qu'on aura bien encore accentué les différenciations sociales et qu'on ne mettra pas les gens dans les mêmes quartiers, il va rester les mâles blancs hétérosexuels, et peut-être que certains voudront être sûrs qu'ils sont bien catholiques, par exemple, et que s'ils sont catholiques, ils sont surtout tout à fait adeptes du fait d'éliminer les autres, et non pas des chrétiens ouverts. Il ne va plus rester grand monde, finalement. Et où ça s'arrête une fois qu'on a enclenché la dynamique de l'exclusion, David Briet?
Il y a un passage qui m'a fait beaucoup sourire quand j'ai écrit ce roman, c'est le discours du prince de Mirieu, qui est un personnage, le cousin de l'empereur, donc un grand noble, membre de la famille impériale. Il est roux, Et donc il fait un discours au Sénat et il s'oppose aux lois de la norme. Et donc il explique aux sénateurs, à ses pairs, qu'ils ne sont pas, eux, l'homme n'est pas censé dire qu'il a le droit de vivre ou de ne pas vivre. Et il expose exactement ce que vous venez de dire. Il dit, mais est-ce que demain seront coupables les épouses coupables d'avoir perdu leur mari ou même les gens roux? Et son discours se termine par « ne me regardez pas comme ça ». Donc évidemment c'est une boutade, mais c'est exactement ça, c'est quand s'arrête-t-on et on va toujours plus loin. Je pense que on s'arrête au moment où on peut se révolter et où les gens se révoltent, et c'est là où il faut, je crois, pas forcément trop attendre. Alors je suis pas un artisan de la révolte, je suis pas dans cette révolte en tout cas, mais on en parlait tout à l'heure, je crois qu'il faut être vigilant et que forcément à un moment où les gens sont trop menacés et se disent qu'il faut se révolter. Mais c'est là où je crois qu'il faut aussi qu'on ait un œil sur cette discrimination. On en parlait, les migrants, tout ça. C'est qu'à un moment, à laisser les gens être ségrégés, être mis de côté, c'est évidemment eux qui sont menacés, mais c'est aussi nous, au final, qui sommes menacés, nous tous, on l'a dit. On est un peu trop gros, un peu trop fou, un peu trop roux, mais ça va finir par ne plus être accepté. Donc ça ne peut pas continuer. Au bout d'un moment, la société ne peut pas rester avec seuls les mâles blancs de 50 ans qui vont à l'église tous les dimanches à 8h30. C'est pas possible. Donc il y a un moment où ça s'arrête forcément. Il faut juste choisir le moment où ça s'arrête, et ça qui est extrêmement important.
David Brice, c'est pas un secret, donc il n'y a aucun problème à aborder la question en public. Vous êtes gay, donc voilà. Donc, évidemment, une différence, un regard par rapport à la majorité hétérosexuelle, juste un simple fait statistique. Est-ce que ça joue dans votre écriture, vos problématiques? Est-ce que ça vous donne un regard particulier, une attention particulière? Pas seulement évidemment aux gens gays, mais à l'ensemble de la société, comme vous venez peut-être de l'exprimer. Est-ce que ça peut vous donner une sensibilité, même si je ne citerai que Charlotte Bousquet, on voit bien qu'une écrivaine hétérosexuelle comme Charlotte, évidemment, est sensible à d'autres minorités, à d'autres injustices, et quelque part, je pense qu'elle aura un discours assez proche du vôtre sur la question d'exclusion. Mais est-ce que quand même être membre soi-même d'une minorité, même importante, ça donne un regard différent dans l'écriture et dans les problématiques, à votre avis? Et à quel point? Parce que j'imagine que vous êtes aussi universaliste d'une certaine façon.
J'essaie de l'être. Ce qui est amusant, c'est que dans Le garçon, la vie qui ne survit plus, je parle d'un ensemble de minorités. Donc, Passe l'hiver, le héros est un jeune homme hétérosexuel qui a un pied beau. Lui aussi est différent. J'aime la différence. Je crois que c'est quelque chose qui m'attire, c'est quelque chose qui m'anime. Je suis animé par toutes les différences. Elles m'enrichissent. Je suis enrichi par les gens qui ont une couleur de peau différente, par des gens qui ont des parcours différents, par des sexes différents. Si vous voulez me faire peur, invitez-moi à une soirée ou une après-midi où il n'y a que des gens qui me ressemblent. Mais vraiment, ça me terrifie. Et je ne vais jamais à ce genre de choses. Ça me fait peur. Tout simplement, ça me fait peur. Et vraiment, je suis nourri par le reste. L'homosexualité, je la traite pas très souvent. C'est le seul roman où j'en parle. Entre autres sujets d'ailleurs, parce que j'ai pas voulu faire un roman sur l'homosexualité, parce qu'il n'y a pas que ça comme différence. Mais j'aime cette différence. Et par contre, j'essaye effectivement des fois de montrer qu'il n'y a pas qu'une seule orientation sexuelle. J'ai des héros des fois qui sont bisexuels. Dans 2087, qui est un roman d'anticipation qui est sorti il y a quelques années, le héros est bisexuel. Bon, il a eu une histoire avec un homme, et d'ailleurs cet homme-là finit par adopter des enfants. Mais voilà, je suis très attaché à la différence, étant moi membre d'une minorité, où effectivement je suis attentif aux minorités, à l'ensemble des minorités, parce que, comme je l'ai déjà dit, ces minorités nous enrichissent, nous apportent des choses, un regard, des expériences de vie. Moi, je suis très heureux de vivre aux côtés de gens gros, fous, homosexuels, intelligents, intellectuels.
Et même des hétérosexuels, etc. On en a parmi nos amis.
Tout à fait, je crois que le mélange, vraiment, j'insiste sur ce mot, mais le mélange nous enrichit, et c'est un bonheur, en ce qui me concerne.
Le mélange nous enrichit, le talent aussi, le coup de cœur du festival, le coup de cœur des Imaginelles 2019 et David Brice. J'espère qu'au travers de cette discussion libre et à bâton rompu, vous aurez vu qu'il a plusieurs cordes à son arc narratif. Le garçon et la ville qui ne souriait plus aux éditions Lynx, un très très joli roman dystopique que je vous incite à offrir à vos enfants à partir de 13 ans à peu près, à vos neveux, nièces, aux enfants de vos amis. C'est un un très joli livre d'abord. C'est une belle histoire et c'est une grande histoire de diversité. Vous verrez qu'un des personnages positifs est un jeune garçon hétéro, tout ce qu'il y a de classique, mais qui simplement veut de la liberté et veut pas qu'on lui impose de choisir ses amis. Et puis, Que passe l'hiver, le grand roman du froid, le grand roman de la neige, le grand roman magique de David Brie aux éditions de L'Homme sans nom, réédité depuis quelques jours aux éditions Pocket avec cette jolie bande coup de cœur des Imaginales. David Brie, c'est un nom que vous allez apprendre à connaître, à reconnaître. C'est un nom qu'on reverra sur des couvertures de romans, des histoires. C'est une de mes très très belles découvertes littéraires. David Brie, précipitez-vous, il va vous dédicacer ses livres. C'est un grand écrivain et c'est un bonheur de l'accueillir aux Imaginales. Merci.
Merci beaucoup. Merci Stéphanie, merci à tous. Et très bon salon.
Vous pouvez donc retrouver David en dédicace sous la bulle du livre à partir de maintenant.